Alors, merci Patricia, merci à toutes et à tous d'être là, merci de cette invitation. Effectivement, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est apparu dans ma trajectoire de recherche assez récemment. Je suis sociolinguiste, interactionniste. Je travaille depuis une dizaine d'années sur les questions de genre et de sexualité. Et je m'intéresse depuis quelques temps à la question de la performance en tant que genre artistique et à sa possibilité, potentialité heuristique pour les sciences sociales et pour la sociolinguistique en particulier. Donc, il ne s'agit pas dans cette conférence de penser la performance ni comme une métaphore pour appréhender les pratiques langagières. Ça a été le cas beaucoup en sciences sociales, notamment avec Goffman, ni comme un objet d'étude pour la sociolinguistique. C'est déjà le cas en anthropologie linguistique, où effectivement la performance est un objet d'étude en soi, désignant une modalité particulière de communication. En m'appuyant sur un ensemble de travaux se situant à la fois dans le sillage des sciences sociales et dans celui de l'art contemporain, j'apprendrai donc la performance comme un outil théorique pour la sociolinguistique. Ceci me permet d'opérer une opération de traduction culturelle, ainsi en m'inspirant du théoricien postcolonial Baba, la mise en dialogue entre plusieurs types de traditions de discours et des pratiques, ici la mise en dialogue entre art et sociolinguistique, génère, pour moi en tout cas, un espace de réflexion inédit et inattendu et propose une histoire croisée à la fois de la performance comme forme et genre artistique et des développements de l'interactionnisme dans les sciences sociales. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est détenter une histoire de l'émergence de la transmission, de l'appropriation, de la recontextualisation du concept et de l'objet performance dans l'art et les sciences sociales. De ce fait, ce travail donc se situe dans un cadre foncièrement interdisciplinaire, mobilisant les performance studies, les approches interactionnelles et d'une façon plus générale, l'histoire des idées. Je proposerai d'abord donc quelques éléments nous amenant à définir et à historiciser le concept de performance. Je mettrai ensuite en dialogue deux mouvements parallèles, l'intérêt pour les pratiques quotidiennes et le langage de la part des artistes et l'utilisation de la performance en tant qu'outil de description pour les sciences sociales. Enfin, j'interrogerai en guise de conclusion la place des pratiques et des théories artistiques dans et pour la sociolinguistique. La performance a été appréhendée comme une clé de lecture mobilisée entre autres en sociologie grâce aux travaux de Goffman mais aussi de Gulwitch, en anthropologie avec les travaux de Victor Turner et en théorie littéraire avec le travail très important de quelqu'un comme Kenneth Bark qui a d'ailleurs inspiré beaucoup des sociologues comme Goffman et des sociolinguistes comme Himes. Et puis enfin dans les études de genre avec Butler qui utilise le terme de performance et de performativité pour rendre compte d'un certain nombre de pratiques sociales dont notamment pour ce qui est de Butler, le genre. En concernant Goffman, si dans la définition de 1959, c'est-à-dire à une époque à laquelle sort pour la deuxième fois aux États-Unis The Presentation of Self in Everyday Life, l'accent est posé sur l'activité, je cite avec la traduction en français, par une représentation, c'est comme ça qu'on traduit en français performance, en tout cas dans cette traduction de Goffman, on entend la totalité de l'activité d'une personne donnée dans une action, une occasion donnée pour influencer d'une certaine façon un ou d'autres participants. Si dans cette définition l'accent est posé sur l'activité, en 1974, c'est-à-dire dans le cadre de l'expérience, La performance est définie de la façon suivante. Une performance, c'est un arrangement qui transforme un individu en un performeur pour la scène, ce dernier étant à son tour un objet qui peut être regardé à cause de son comportement intéressant par des personnes jouant le rôle du public. Si donc dans la définition de 59, l'accent est posé sur l'activité, on pourrait même presque dire qu'il y a une sorte de coalescence entre la notion de performance et celle d'interaction. En 1974, la performance est désignée davantage comme un arrangement, on pourrait dire presque un dispositif, permettant de transformer l'individu en acteur. C'est un peu comme si on assistait à un déplacement d'un cadre à l'autre. Dans le premier, en 59, la performance est définie par l'activité d'un participant influençant d'autres participants. Dans le deuxième, en 74, donc dans le cadre de l'expérience, la performance est appréhendée presque comme un dispositif externe capable de transformer et de concevoir l'individu en tant qu'acteur social. La performance, telle qu'elle est appréhendée dans les travaux de Judith Butler, se réfère à des événements, à des spectacles de drag queens dans des clubs gays ayant lieu face à un auditoire qui assiste et qui applaudit, et dans lesquels les espaces de la scène et du public sont traditionnellement séparés. En effet, ce qu'elle nomme comme performance, mais l'anglais contient en effet cette ambiguïté lexico-sémantique, ne sont que des spectacles, toutes sommes classiques, et ayant lieu dans des cadres assez traditionnels. C'est plus tard, notamment en 93 dans Bodies That Matter et en 2015, dans son dernier bouquin qui a été traduit cette année et qui vient de sortir, qui s'appelle Le Rassemblement, que Butler propose une autre idée de la performance, plus ancrée dans le rassemblement urbain que dans les chiffres traditionnels. Donc elle passe d'une conception de la performance assez théâtrale, très goffmanienne, où il y a effectivement un show, il y a quelqu'un qui accomplit une action artistique relevant du cabaret devant un public, à une autre idée de performance dans laquelle elle appelle en fait performance des rassemblements spontanés urbains, comme ça a été le cas par exemple pour la Nuit debout, dans un espace urbain. Ce qui est plus intéressant et ce qui permet à mon avis une utilisation plus adéquate du terme performance d'un point de vue artistique. Mais finalement, ce qui l'intéresse, Butler, est moins la performance que la performativité, qui définit à la fois comme un horizon normatif au sein duquel les performances sont possibles et comme l'itérabilité, la répétition et la stabilisation des normes de genre dans les pratiques sociales. En anthropologie linguistique, je fais référence notamment aux travaux de Richard Bauman, mais aussi à ceux de Ruth Finnegan. La performance désigne en fait une modalité communicationnelle, un genre discursif qui prend en compte le rôle joué par les différents types d'audience dans la production, l'évaluation et la réception d'un texte, ainsi que l'ensemble des modalités corporelle, musicale, sensorielle et vocale, au travers desquelles le texte est livré face à un public. En tant que genre artistique, la performance émerge à la fin des années 50 et au début des années 60 en Europe, au Japon et aux États-Unis. Elle fait écho aux propositions des avant-gardes futuristes et dadaïstes de la fin du XXe siècle et trouvera un plein essor dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, où on assiste à un véritable renouveau, succès du concept de performance dans les arts plastiques. La performance, que l'on pourrait définir comme une action se déroulant dans un temps X, une fois pour toutes, se situe dans un univers sémantique marqué par l'action, par l'événement et côtoyant des synonymes, des termes qui voyagent en tout cas dans le champ de l'art contemporain, qui sont ceux de action, de happening et de event. C'est en 1952 que John Cage, musicien contemporain, invente un nouveau type de forme artistique, ce qu'on appellera plus tard performance, à laquelle il donne le titre de event, dans le titre qui s'appelle justement Untitled Event. Cet événement, inspiré de Antonin Artaud, n'est déterminé par aucun texte et les spectateurs, comme on peut le voir dans le brouillon, sont placés au centre de la scène. Pendant 45 minutes, toutes sortes d'activités se déroulent librement et en même temps. David Tudor joue du piano, M.C. Richards et Charles Olson lisent des poèmes, Robert Rauschenberg projette des films au plafond et met de la musique, John Cage lit une conférence, Merce Cunningham danse, un chien court au milieu des participants en aboyant. Tout cela dans un décor constitué des monochromes blancs de Rauschenberg et d'un tableau abstrait en noir et blanc peint par Franz Klein. Cette performance a imposé John Cage et Merce Cunningham comme les leaders de l'avant-garde américaine de l'époque. Elle est considérée aujourd'hui comme une sorte de performance avant la lettre. La performance, en tant que genre artistique, entretient un rapport très problématique avec le théâtre. À la fois, elle se situe comme quelque chose qui se situe justement en continuité avec le théâtre. Dans ce cadre, le texte est considéré comme étant second, comme étant quelque chose de facultatif, ou bien comme tout simplement une source d'inspiration. Par exemple, un artiste comme Romeo Castellucci, qui a fait une trilogie inspirée de la Divine Comédie de Dante, il utilise donc les trois parties de la Divine Comédie, Inferno, Purgatorio et Paradiso, uniquement comme source d'inspiration, sans utiliser les traces textuelles dans ces spectacles. On parle aussi aujourd'hui d'un théâtre performatif en soulignant les zones de porosité entre un théâtre plus, je dirais, logocentrique, centré sur le texte, sur la parole, et un théâtre plus axé sur d'autres médias tels que la vidéo, des images, un théâtre, disons, beaucoup plus visuel. Mais il y a aussi, en tant que genre artistique, la performance se détache de la tradition théâtrale, donc se détache de la tradition logocentrique verbale et sera donc beaucoup plus proche des arts plastiques. Dans ce cas-là, l'image, le corps, la vidéo, l'action seront au centre de la performance. Un exemple, plusieurs exemples, je vais vous en donner donc deux. Un qui est considéré comme historique, c'est la performance de Yoko Ono, donc jouée en 1965, qui s'appelle donc Cat Piece, dans laquelle en fait elle est assise sur un plateau. À côté d'elle, il y a une paire de vidéos. Elle invite le public à couper une partie de son vêtement pour la porter avec eux. Alors, dans cette performance, il y a plusieurs choses à dire. Hein. Mais ce qui m'intéresse, il y a aussi le caractère politique. Elle se fait dans un cadre assez particulier, donc celui de la guerre du Vietnam, donc des mouvements pacifistes antimilitaristes. Donc le corps, avec son vêtement qui est coupé, signifie donc un corps vulnérable. Mais il y a aussi l'aspect qui m'intéresse plus, en tout cas pour aujourd'hui, l'aspect participationnel de l'œuvre, c'est-à-dire que le public co-construit avec Yoko Ono cette performance, puisqu'elle contribue avec son action de couper le vêtement à rendre intelligible l'idée d'un corps vulnérable. De la même manière, une performance qui a eu lieu cette année en Italie dans un centre d'art contemporain qui s'appelle Lo Scompiglio, dont je vais vous montrer deux extraits. Dans cette performance, qui était une performance qui était beaucoup axée sur les questions de genre, on invite le public à faire un chemin au long d'un domaine avec les deux performeurs, et à un moment donné, donc ce public, tout au long de ce chemin, est invité à se transformer lui-même et à donc à changer de genre. Donc là, en fait, il fait ce chemin, il est amené à regarder des planches anatomiques. Et à prendre conscience de la fabrication médicale d'un corps sexué et genré. Pour ensuite arriver dans un autre espace, dans le domaine, où les gens seront confrontés à une possible transformation d'eux-mêmes, parce qu'ils vont trouver une table avec des outils qui sont mis à leur disposition pour qu'ils puissent se maquiller, donc changer de genre. On leur donne aussi une photo avec un modèle à partir duquel ils peuvent s'inspirer pour la transformation. Voici quelques caractéristiques donc, de la performance en tant que genre artistique. Alors d'abord, il y a son caractère de rupture par rapport à l'establishment artistique, mais aussi politique, sa présentation sous forme de manifeste, une profonde interdisciplinarité parmi donc, les formes artistiques. Donc, vous pouvez avoir de la vidéo, vous pouvez avoir de la danse, vous pouvez avoir du théâtre, vous pouvez avoir de la poésie, etc. Une nouvelle conception de l'espace scénique qui devient mouvant et non fixe, et une critique aussi des lieux institutionnels, c'est-à-dire que les performances, elles vont se faire en dehors des lieux institutionnels, elles vont se faire dans la rue, elles vont se faire dans des galeries d'art, dans des appartements. Le fait que tout puisse devenir art, y compris les bruits, c'est le cas donc de John Cage dans cette performance, utilise donc les bruits de l'eau pour faire de la musique, mais aussi le cas des futuristes italiens avec le mouvement du bruitisme, la recherche donc d'un nouveau langage, et là je fais référence donc à un manifeste technique de la littérature futuriste où on propose de détruire la syntaxe en disposant les substantifs au hasard de leur naissance, avec un remplacement de tous les verbes à l'infini, l'abolition de l'adjectif, l'abolition de l'adverbe, plus de ponctuation, détruire le genre littérature, c'est-à-dire donc toute la psychologie, et faire du laid, détruire donc le beau. Il y a aussi, notamment avec le mouvement dadaïste, aussi la recherche d'un nouveau langage, voire d'une nouvelle langue. La prise en compte du langage en tant que matériau artistique, c'est-à-dire esthétique. Là, je vous donne l'exemple donc, d'un artiste nord-américain qui s'appelle Bruce Nauman, qui est très inspiré par les écrits de Wittgenstein et de Austin, et qui a travaillé à plusieurs reprises justement sur le langage en contribuant à lui donner par ses installations et ses performances à souligner, je veux dire, la dimension pragmatique. Donc par exemple, dans cette installation vidéo, l'expression « thank you », elle est répétée à l'infini jusqu'à ce que l'on perde sa signification initiale.
Thank you, 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 thank you.
Ou alors, en soulignant la dimension multisémitique du langage, dans laquelle la parole est imbriquée dans l'image, la vidéo, le son et l'espace de l'installation, comme dans cet exemple. Et même dans sa dimension matérielle, ici, grâce à cette installation où l'espace géographique matériel devient un espace sonore et donc langagé, puisqu'il est entouré par un ensemble de voix et de sons. Un aspect aussi très important pour la performance, c'est la provocation et la participation du public qui devient moins un spectateur qu'un spectateur, selon l'expression de Judith Malina, un membre très important du Living Theatre, et dans laquelle, donc, du coup, on a une nouvelle forme d'autorité, voire de authorship. L'exemple que je choisis pour vous, c'est l'exemple donc d'une performance qui s'appelle Carcasse, qui a été donc accomplie par un artiste russe qui s'appelle Pavlensky. Et je cite donc et cette performance a lieu un an après la réélection de Poutine pour protester contre les lois répressives adoptées par celui-ci. Il se fait donc enrouler par du fil barbelé à l'entrée du Parlement de Saint-Pétersbourg. Je cite le propos de Pavlensky qui accompagne donc cette performance. « Ce n'est pas mon corps qui est une victime. En réalité, ce sont les exécutants du pouvoir qui sont les victimes. » Ici, donc, on voit justement la police qui vient donc à l'encontre donc de Pavlensky pour essayer de le sortir en fait de ce fil barbelé. Donc ce sont les exécutants du pouvoir qui sont les victimes car ils se trouvent dans une situation de grande soumission. Ils sont obligés de se soumettre au règlement. C'est un travail, celui qu'il fait, donc sur les relations entre sujet et objet. Car en plus d'être déjà des objets qui remplissent une fonction, ils deviennent, en tout cas dans sa conception, des objets artistiques. Donc, puisque pour Pavlensky, les actions des policiers font partie de la performance, font partie de l'action et rendent donc du coup leur corps comme des objets artistiques au même titre que le corps de Pavlensky enroulé dans du fil barbelé. Une autre caractéristique donc de la performance, c'est d'interroger donc la place du texte. Nous l'avons vu, nous pouvons avoir aussi des performances soit qui sont dépourvues complètement de texte, ou alors dans lesquelles le texte, par exemple un texte de Shakespeare, peut être mis à côté des textes considérés comme appartenant à une tradition plus populaire, comme par exemple des échanges sur WhatsApp ou des échanges sur Facebook. Ou alors une La performance est aussi caractérisée par une pluralité de focus d'attention, comme nous l'avons vu donc dans la performance de John Cage, de Cunningham, Toder et Rauschenberg, où justement il y a un éclatement de l'espace scénique et dans lequel donc le public peut se promener entre un pôle d'attention et l'autre. Un autre trait très important, c'est l'expérience. C'est-à-dire que si le théâtre est là pour représenter quelque chose, la performance est là pour donner la possibilité aussi bien aux performeurs qu'au public, mais qui, on a vu, deviennent eux-mêmes parfois acteurs de la performance, des vecteurs d'une véritable expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une performance et lorsqu'on assiste à une performance, on fait l'expérience de quelque chose. C'est ce que j'ai fait moi-même, c'est ce que j'ai vécu moi-même cette année lorsque je suis allé voir cette performance d'une artiste italienne qui s'appelle Chiara Bersani, où en fait on rentre dans une pièce où il ne se passe absolument rien, où il y a 5 performeurs qui sont ainsi, qui sont allongés par terre, qui se regardent, qui se touchent, et qui vous regardent et qui vous touchent. Donc la performance, elle dure 1 heure, et donc il faut tenir 1 heure, dans laquelle effectivement on fait l'expérience de ce que c'est que regarder les performeurs, être à regarder les performeurs, être touché les performeurs, et on est tout le temps confronté à la question, est-ce que je peux les toucher, est-ce que je peux les regarder, qu'est-ce que je peux faire là, quel droit je m'arroge en étant là, etc. Donc en fait, la performance, c'est faire l'expérience, en tout cas, d'une modalité particulière d'interaction avec l'autre. La place du corps, bien évidemment, très important, un corps qui n'est pas neutre, qui est genré, sexualisé, racisé, et qui n'est pas considéré comme quelque chose qui irait de soi. Alors, et aussi un corps qui ne s'arrête pas à l'enveloppe corporelle du performeur, mais qui vise plutôt à souligner le caractère collectif, intersubjectif du corps, comme dans cette performance de Ligia Clark, où justement les corps bougent ensemble. Donc les corps qui bougent ensemble et qui sont justement réunis par cette toile remplie de trous dans lesquels il y a les têtes des participants. Et puis, bien évidemment, la place du genre. Martha Rosler, qui est une artiste féministe et performeuse des années 70, propose, dans les années 70 justement, 75, une performance qui s'appelle « The Semiotics of the Kitchen », qui est une sorte de dictionnaire visuel du patriarcat dans lequel les entrées lexicales, des mots, mais qui sont considérés vraiment comme les entrées lexicales d'un dictionnaire, sont associées à des objets domestiques prototypiques. La mise en relation entre le nom et l'objet, un nom qui réfère et qui désigne l'objet, la mobilisation aussi des gestes, de son habit, le ton et la prosodie de sa voix, contribuent à la construction d'une image de la femme qui est aliénée par et dans l'espace domestique et le patriarcat.
Thank you.
Un très bon nombre de ces points que j'ai présentés comme étant les caractéristiques, mais c'est une liste bien évidemment aussi ouverte, de la performance sont à mon avis partagés par un bon nombre de recherches se déroulant donc dans les sciences sociales et plus particulièrement dans le champ des études interactionnelles et de la sociolinguistique. Notamment, une vision multisémiotique de l'action, une problématisation groupe locuteur-interlocuteur qui fait écho à la remise en question dans le champ artistique de la paire acteur-spectateur, une multiplicité des espaces de participation qui a été mise en avant par les chercheurs à l'interaction et qui fait écho justement à l'éclatement de l'espace scénique dans l'art contemporain, une vision du corps non neutre traversée par des questions du genre, des races, des classes, de pouvoir, et enfin une vision expérientielle de la grammaire en train de se faire émergentielle qui fait écho à mon avis à la place consacrée au processus, aux choses qui sont en train de se faire dans l'art contemporain. Comme on peut le voir dans cette photo que j'ai prise au Palais de Tokyo, un centre d'art contemporain à Paris, l'histoire de la performance est imbriquée par la body art, par le postmodernisme, par l'art conceptuel, mais aussi avec les théories de la communication et avec l'interactionnisme symbolique. Par ailleurs, et ce n'est pas un hasard, l'ancien directeur du Palais de Tokyo, Nicolas Bourriaud, a inventé le terme de esthétique relationnelle, qui désigne par là une forme d'art performatif considérant l'intersubjectivité et les relations sociales comme des formes esthétiques. Ce n'est pas un hasard si un artiste comme Tino Segal, aujourd'hui, ce mois-ci, est invité au Palais de Tokyo pour un cycle de performances dans lesquelles c'est précisément l'interaction entre les participants, les visiteurs et les performeurs qui constitue le cœur de la performance même. Donc vous rentrez dans l'espace du Palais de Tokyo et vous êtes accompagné par quelqu'un qui vous pose des questions sur le futur, qui vous pose des questions sur le progrès, qu'est-ce que c'est que le progrès. Et en fait, au fur et à mesure que vous êtes accompagné par ces questions, alors les performeurs ils se donnent le change, vous vous rendez compte que vous ne voyez rien, que l'espace du Palais de Tokyo est complètement vide, mais qui est rempli d'interactions, de questions-réponses entre les participants et les performeurs. D'un point de vue historique, la performance naît dans un contexte marqué par l'après-guerre et la guerre froide, mais aussi par un contexte qui verra l'éclosion des mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam et les mouvements de libération sexuelle. C'est un contexte marqué par l'influence exercée par l'existentialisme de Sartre sur les artistes et sur des interactionnistes comme Goffman. Goffman viendra à Paris justement parce qu'ils se sont très influencés par quelqu'un comme Sartre. Et par l'émergence de nouvelles méthodes expérimentales en sciences sociales, comme le psychodrame ou la psychologie sociale de Kurt Lewin, en réponse aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans ce climat qu'un projet datant de 1955, The Natural History of an Interview, et réunissant des psychiatres, des anthropologues, des sociologues et des linguistes comme Bateson et Birwistel, verra le jour, avec l'objectif de proposer, au travers de ces multiples compétences, une théorie générale pour le comportement communicationnel. La performance se nourrit également de l'avènement de la société de la consommation, des moyens de communication des masses, et par une attention accrue pour la communication, comme le montrent les ouvrages du père fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, plaçant celle-ci au centre de la société des années 50. C'est dans ce contexte que la Fondation Rockefeller finance de nombreux projets scientifiques qui favorisent le dialogue entre les sciences sociales et les sciences de la communication de l'ingénieur, ainsi que la venue de nombreux chercheurs européens aux États-Unis à l'École libre d'hautes études, université en exil francophone, associée à la New School for Social Research de New York. C'est la même école dans laquelle quelqu'un comme John Cage, dans les années 50, donne un cours qui s'appelle Communication. Et c'est dans ce contexte que des chercheurs expatriés français, notamment comme Lévi-Strauss, qui fait la rencontre de Jacobson, vont contribuer à la popularisation de la cybernétique au sein des sciences humaines françaises et qui feront connaître le structuralisme linguistique aux chercheurs en sciences humaines américaines. Ce focus sur les pratiques sociales langagières s'insère d'un point de vue de l'histoire de l'art contemporain à l'intérieur d'un vif intérêt pour le langage et l'interaction. Il se développe à partir des années 50-60 dans le milieu artistique new-yorkais, marqué entre autres par l'art conceptuel, au sein duquel la notion de processus et les relations entre le langage et les objets, les corps et l'espace occupent une place centrale. C'est intéressant de remarquer comment, à côté d'une dématérialisation de l'œuvre d'art, propre à l'art conceptuel, dans laquelle l'objet artistique s'incarne moins dans sa matérialité, un tableau, une sculpture, que dans un concept ou dans les processus fabriquant sa propre intelligibilité matérielle et artistique, on voit s'imposer quelque chose de différent dans le champ des sciences sociales. En effet, on pourrait dire que, en même temps que l'on assiste à une dématérialisation de l'œuvre artistique pour se focaliser davantage sur les processus politiques, cognitifs et linguistiques qui permettent sa propre fabrication, à la fin des années 60, un groupe de chercheurs s'intéressant à l'articulation entre société et langage se réunit à l'Université de Californie de Los Angeles dans un colloque à visée programmatique, se proposant d'appréhender le langage en tant que pratique sociale située matérielle et non plus imaginée cognitive. Si en sens social, le langage cesse d'être un objet purement représentationnel et cognitif, pour s'incarner davantage dans la matérialité des pratiques quotidiennes et pour être définitivement appréhendé en tant qu'action, grâce aussi aux progrès relevés dans les dispositifs d'enregistrement sonore, dans les arts plastiques, des artistes comme John Cage, comme Vita Conci, qu'on verra plus tard, influencés par l'art conceptuel, attribuent au langage et à son enregistrement et à sa transcription des qualités plastiques et esthétiques. Alan Kaprov, inventeur dans les années 60 des happenings, qui sont une forme de performance, crée des formes artistiques très proches des performances, proposant un degré important de participation de la part du public et se focalisant sur l'action en train de se faire et sur l'esthétisation des routines quotidiennes. Voici comment Kaprov, qui par ailleurs suit les cours de John Cage à la New School for Social Research in New York, s'exprime à ce propos. If the models for these early happenings were not the arts, then there were abundant alternatives in everyday life routines, brushing your teeth, getting on a bus, washing dinner dishes, asking for the time, dressing in front of a mirror, telephoning a friend, squeezing oranges. It was the difference between watching an actor eating strawberries on a stage and actually eating them yourself at home, doing life consciously as a compelling notion to me. Par l'attention attribuée aux pratiques quotidiennes les plus triviales, Kaprov était, comme on peut le facilement imaginer par la lecture de ces passages, un lecteur attentif de Goffman. En effet, il reviendra à plusieurs reprises sur l'influence qu'un ouvrage comme La mise en scène de la vie quotidienne a pu avoir sur ses travaux et sur un parallélisme qui établit entre, d'une part, ce que les acteurs sociaux font au cours de leur pratique quotidienne et d'autre part, ce que les acteurs peuvent faire sur un plateau. Goffman, par ailleurs, n'est pas la seule source d'inspiration pour Kaprov pour penser aux interactions en tant que matériaux et sources pour les performances. Dans une interview de 1977 publié en 1978, Kaprov cite l'anthropologue et linguiste Ray Birdwistell, et en particulier ses analyses kinésiques, comme une réelle source d'inspiration pour son travail. Yes, surely I was also interested in Birdwistell, who made very careful analysis of film and video recordings of, for instance, facial expressions accompanying conversations, which were done with analyzers. Reading them led me into a very different idea of human behavior as it applied to performance from that of my colleagues. Ce focus sur les pratiques. Alors, ce focus sur les pratiques quotidiennes, on peut le voir aussi chez un artiste contemporain très important qui est Vito Acconci. Et avec lui, je vais voir comment le langage, au sens large du terme, comment la performance peut être appréhendée comme une source de connaissances pour la sociolinguistique et comment aussi un focus sur le langage peut relever la dimension linguistique et incarner des performances. Dans la performance de 1974, Open Book, Acconci, poète et performeur, est filmé en gros plan sur sa bouche grande ouverte, proférant un texte dont j'ai reproduit un fragment. I'll accept you, I won't shut down, I won't shut you out, I'm open to you, I'm open to everything, this is not a trap, we can go inside, yes, come inside. Dans cette œuvre, le texte, dans sa matérialité, est incarné par le corps qui s'adresse directement au public. Ce que l'on voit est une bouche, l'organe de la voix et du langage, en train de parler. Le langage, véritable agent de la performance, est appréhendé à la fois dans ses dimensions incarnées et intersubjectives. Le texte énoncé par un nom à Acconci s'adresse directement au public par le biais de pronoms de première et deuxième personne au singulier, I, you, et l'invite, grâce au pronom oui et à l'impératif come, à accomplir une action ensemble. Par cette action, le public cesse d'être un sujet passif et voyeur pour devenir d'abord, grâce au pronom you, un destinataire ratifié de la performance, dirait Goffman, et ensuite par le pronom « oui », un participant co-construisant le travail. Si, au cours de sa carrière, grâce à son intérêt pour le langage, se diversifie en prenant en compte d'abord la page écrite, il est poète au début, et ensuite la parole qui est dite. Nous verrons comment, dans le prochain exemple, Acconci propose un déplacement ultérieur en prenant en compte l'interaction entre les corps dans les espaces publics avec une performance datant de 1969, Following Peace. Pour cette pièce, il s'inspire de la mise en scène de la vie quotidienne de Goffman, mais aussi de la proxémie de Edward Hall et de la psychologie des groupes de Kurt Lewin. Dans cette performance, qui se déroule dans les rues de New York, Acconci décide chaque jour, pendant presque un mois, du 3 au 25 octobre 1969, de prendre au hasard une personne qu'il suit dans ses trajectoires quotidiennes dans la rue. La performance s'arrête au moment où la personne suivie entre dans un espace privé comme la maison, celui du travail ou bien la voiture. Ainsi, les coordonnées spatio-temporelles de la performance, c'est-à-dire sa durée et sa trajectoire, dépendent de la volonté de la personne suivie. Dans ce cadre, le performeur n'a pas un contrôle absolu sur la performance. La trajectoire et le temps de la performance sont ceux de la personne qui est suivie. Ce qui intéresse Acconci dans ce travail et qui fait écho aux recherches de Goffman est la dimension intersubjective du corps, de l'espace et du temps. Ainsi, le corps du suiveur doit s'adapter au rythme du suivi. Il n'y a pas de corps individuel en dehors de la relation entre suivi et suiveur. Et la matérialité de l'espace de la performance, la rue, est reconfigurée par les trajectoires du suiveur et du suivi. Le focus sur les pratiques, qu'elles soient purement corporelles ou vocales, permet de penser à de nouvelles formes artistiques participatives une conception de l'action qui ne soit uniquement fondée sur les textes écrits ou même sur la parole dite. L'exemple de la pièce concert performance 4 minutes 33 secondes de John Cage, dans laquelle il propose au public l'expérience du silence, est né en cas exemplaire. Alors, le ou les musiciens, sans ou avec le directeur d'orchestre, parce que ça, c'était une, une reprise, vous pouvez avoir plusieurs variantes, prennent place sur le plateau et s'installent. Ils tournent les partitions. Ils peuvent ouvrir ou refermer le capot du piano s'il y a un piano, sans qu'un seul son de musique soit joué. Pourtant, il s'agit bien de musique et d'un silence chargé d'action. Les regards, les raclements de gorge, le bruit provoqué par les aspirations et les inspirations, celui des partitions tournées par les musiciens, le tout pendant le temps de 4 minutes et 33 secondes. Dans cette performance, John Cage nous montre que le silence est chargé d'action qui ne s'oppose pas dans une vision binaire au son qui les nourrit et constitué par un ensemble de marques d'écoute, des participations non verbales, mais néanmoins signifiantes de la part des musiciens ou du public. Et qu'est-ce que l'on appelle silence se révèle être finalement une fiction et qu'une vision participationnelle des œuvres artistiques, voire des pratiques sociales, est possible. Cette vision du silence comme s'imbriquant et constituant même l'action est partagée par des approches conversationnalistes et plus strictement ethnographiques du silence. Il suffit de penser aux travaux de Keith Basso sur le silence chez les Apaches et sur la façon dont celui-ci est traité comme un comportement social entretenant des liens très forts avec les identités des interactants ou à ceux des conversationnalistes pour lesquels le silence conversationnel, survenant au sein d'un tour ou entre les tours, fait partie du mécanisme d'alternance de tours et en constitue une composante importante. Sherry Cavan, sociologue, étudiante de Garfinkel et de Goffman, raconte, dans une interview avec Dimitri Chalin, transcrite et postée dans les archives de Goffman en ligne, l'atmosphère des cours de Goffman à Berkeley. Sherry Cavan arrive à Berkeley en 1961 pour assister au séminaire de Goffman Social Interaction au lendemain de la sortie de son ouvrage en 1959, The Presentation of the Self in Everyday Life. Dans un passage que j'ai sélectionné, il montre de quelle façon John Cage constitue une référence importante mobilisée par Goffman pour rendre compte de son cadre théorique. The final was, we spent the semester learning this conceptual framework, which really didn't apply to anything in particular. For the final, he played 15 or 20 minutes of John Cage concert. It was a recorded concert of John Cage, which was, of course, off the wall, like there are big silences. The final was to analyze what we would heard. Wow! That's highly original. People were probably floored. Well, they were. They were really floored. But you know, you could work your way through it by saying that, first of all, it was called a concert, which put it in a certain framework. The silences let you hear the audience shuffling, chairs moving. Very interesting, sort of like conversation analysis, only more broadly conceived. Comme on peut le constater par la lecture de ce passage, les enjeux catégoriels posés par la performance de John Cage, sa possible interprétation en tant que concert, l'interrogation que cette performance permet de faire autour de la notion de silence, constituent un défi important pour l'étude des interactions et pour l'analyse des conversations, fût-ce au sens large du terme, comme le montre la réplique de Charlene à Cavan, qui replace les propos de Goffman sur Cage comme étant centraux pour les approches, en tout cas praxéologiques, à l'étude du langage en tant que pratique sociale. Bien que les liens entre Goffman et Cage ne soient ni toujours explicites ni documentés, il est intéressant de remarquer comment, si l'on se place du côté des arts, John Cage définit le théâtre. What's your definition of theater? I try to make definitions that won't exclude. I would simply say that theater is something which engages both the eye and the ear. The two public senses are seeing and hearing. The senses of taste, touch, and odor are more proper to intimate non-public situations. The reason I want to make my definition of theater that simple is so one could view everyday life itself as theater. La définition proposée de théâtre est minimale. something which engages both the eye and the ear. Elle est reformulée plus tard dans l'interview par I think of theater as an occasion involving any number of people, but not just one. Elle nous renvoie à une vision shakespearienne, goffmanienne de la vie en tant que théâtre et nous aide à repenser le théâtre, mais on pourrait faire l'hypothèse, toute forme artistique, en tant que pratique interactionnelle. Je vais vers la conclusion. Alors, je n'ai pas voulu, avec cette conférence, ouvrir un nouveau champ dans lequel la performance serait l'objet de la discipline ou le dispositif au travers lequel pouvoir étudier les dynamiques sociales. Cela existe déjà en anthropologie linguistique ou dans nombre de domaines disciplinaires, approches théoriques, où effectivement le concept de performance et la métaphore dramaturgique restent des outils puissants de description et d'interprétation de la réalité sociale. Ce que j'ai proposé, c'est d'envisager l'art contemporain et les enjeux théoriques et formels qu'elle propose comme un outil théorique pour la sociolinguistique. Ceci implique plusieurs aspects qui pourraient constituer une sorte de programme pour penser les relations entre art et sociolinguistique. D'abord, un questionnement sur la nature de nos données et de nos sources théoriques liées à la nature des savoirs produits par les arts et aux usages qui en sont faits lorsque science et art sont mis en dialogue. De quelle façon les performances produisent des connaissances? Quelle est la valeur empirique que nous attribuons aux œuvres d'art comparée à celle qui est produite par les données utilisées en sociolinguistique? Ensuite, pensez la relation que la sociolinguistique entretient avec des paradigmes qui déstabilisent les frontières disciplinaires comme les studies. Si les études de genre commencent à trouver leur place au sein de nos disciplines, qu'en est-il, par exemple, de performance studies, qui semble encore si peu connue dans l'espace francophone des sciences sociales? Si la sociolinguistique donne comme acquise, quoique problématique, les relations avec les sciences sociales, qu'en est-il des humanités? Enfin, si la sociolinguistique fait preuve d'une grande ténacité dans la volonté de construire un cadre interdisciplinaire entre la sociologie, l'anthropologie et la linguistique, pourquoi l'histoire de l'art et les études sur la performance restent-elles marginales dans un champ où, curieusement, la dimension théâtrale des pratiques est si fréquemment évoquée, mais rarement intégrée dans l'appareillage théorique? Pourquoi l'art, qu'elle soit plastique, visuelle ou s'incarnant dans des textes écrits de la poésie ou de la littérature, resterait dehors de nos périmètres empiriques et théoriques? S'il est possible de faire de nos vies des œuvres d'art, comme nous l'a rappelé Foucault dans une conférence de 1983, peut-on faire de l'art une source théorique majeure pour la sociolinguistique, quitte à envisager de nouvelles écritures pour son histoire et des horizons inédits pour son futur? Merci.